Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave.
Il y a déjà plus d'un an, dans Les Vivants et les Dieux, nous avions consacré une émission entière à la Divine Comédie de Dante et la Divine Comédie telle qu'elle était relue, si l'on peut dire, réinterprétée, travaillée par un écrivain comme Philippe Sellers à la suite du long dialogue qu'il avait eu avec Benoît Chantre. Dans le cadre de l'opération que mène France Culture autour de la Divine Comédie, de la lecture extrêmement importante qui va en être donnée de ces textes, il nous a semblé qu'il était intéressant, sinon même important, de redonner précisément l'ensemble de ces réflexions de Philippe Sellers sur la Divine Comédie, dans la mesure où c'est un texte avec lequel on n'en a jamais fini de s'expliquer et qui pose tout un certain nombre de problèmes absolument essentiels, à la fois pour la spiritualité, à la fois pour la théologie, à la fois pour le mystère, la compréhension de ce que c'est que l'acte d'écrire. En effet, on peut se demander pour la Divine Comédie quelle est la différence entre la vision et l'imagination poétique, et peut-être d'ailleurs, de ce point de vue-là, n'y a-t-il aucune différence véritable, puisqu'on sait très bien que la poésie vient du poiesis grec, vient du verbe poiein, qui est la fabrication, et ce qui fait que l'imagination poétique serait en fait une imagination créatrice, c'est-à-dire en même temps, toutes les théologies nous l'ont expliqué, une imagination réceptrice de ce qui nous vient de la transcendance, et où donc l'imagination poétique et la vision de ce point de vue-là seraient en fait exactement la même chose.
Il est bizarre, mais probablement logique qu'il nous ait fallu 6 siècles pour commencer à prendre la vraie mesure de Dante. Et je crois que c'est tout simplement parce que nous sortons maintenant des temps modernes qui nous aurait peu à peu caché de plus en plus Dante, et que nous entrons dans une autre ère depuis déjà assez longtemps qui s'appelle l'ère planétaire, et Dante nous rejoint.
Au milieu du chemin de la vie, je me trouvais dans une forêt obscure, car j'avais perdu la bonne voie. Comme celui qui le souffle haletant vient d'échapper à la mer, et sur le rivage se tourne vers l'eau grondante et regarde. Ainsi, mon esprit qui défaillait encore se retourna pour revoir le passage qui ne laissa jamais personne en vie.
On voit bien que le voyage, le grand voyage spirituel finalement de Dante, va se faire sous la conduite d'abord de Virgile, ensuite de Béatrice. Donc on peut tout de suite dire de la poésie d'un côté, de l'amour de l'autre. Sans évident, on peut se poser tout de suite la question, pourquoi Virgile? Parce que quand même ce poète n'est pas n'importe quel poète, c'est le poète en même temps fondateur de la Nouvelle Rome, de Celsus Auguste, et j'ai d'une certaine façon le poète officiel de l'Empire dont se réclame le Saint-Empire romain germanique par ailleurs, pour lequel Dante va finir par prendre position, tout guelf qu'il était à l'origine. Donc est-ce que là on ne se trouve pas devant une sorte d'équation, je dirais, par rapport à ce que Dante va dire dans le Démonarchia aussi, c'est-à-dire la papauté, c'est pour le bonheur spirituel des hommes, l'Empire, c'est pour le bonheur terrestre.
Il y a 3 intercesseurs dans la Divine Comédie. Virgile, vous avez raison, Béatrice, cela va sans dire, puisque c'est elle qui intervient depuis les cieux pour faire sortir Virgile
accompagnant Dante, et puis le troisième qu'il ne faut pas oublier, où Virgile et Béatrice s'effacent. Virgile s'efface au paradis terrestre, Béatrice s'efface au moment du 33e chant qui est l'entrée dans la divinité elle-même, c'est Saint Bernard, français, Saint Bernard de Clairvaux, lequel prononce en effet ce fameux chant. Bel gine madre, figlia del tuo figlio, tenmi fisso de tenno consiglio. Bon, alors Virgile pourquoi? Bien, Dante non seulement considère qu'il va écrire un poème sacré. Il faut faire très attention à cette formule. Cela implique qu'il s'agit bien d'un texte sacré. Texte sacré, ça veut dire que le lecteur convoqué doit y déchiffrer un certain nombre de signaux, de signes, de symboles qui vont pouvoir éventuellement le transformer lui-même. La lecture est considérée à ce moment-là comme un acte qui serait une expérience physique, psychique, pneumatique, si on peut dire, du lecteur lui-même. Virgile est considéré comme le poète sacré. Ce poète sacré s'est tu au moment où Dante parle depuis 13 siècles. Vous vous rappelez qu'il apparaît à Dante avec la voix un peu enrouée, il n'a pas parlé depuis très longtemps, c'est très touchant comme détail. Ce qui prouve à quel point l'audace de Dante est grande, parce que tout simplement le latin ne convient plus. Le latin ne convient plus, il est encore utilisé en théologie, il est encore utilisé, Virgile est un poète de référence, mais il s'agirait de faire parler une langue nouvelle pour des choses qui vont dans l'au-delà, au fond de cet au-delà. Il faut donc inventer une langue nouvelle. Il y a des langues qui circulent, ou du moins une, si on peut dire, c'est toute la poésie provençale qui est déjà répandue beaucoup dans le milieu de la France. Et d'ailleurs, les troubadours apparaissent dans le poème de Dante. Il faut dépasser le latin, il faut intégrer le provençal et inventer une langue qui soit sacrée, une langue nouvelle, qui soit sacrée, prétention extraordinaire, c'est pas vrai, et qui dure. Donc c'est tout simplement l'italien.
Che portate la sembianza mia con gli occhi bassi.
Regardant en son fils, avec l'amour que l'un et l'autre à tout jamais respire, l'ineffable et première des puissances fit si ordonnément tout ce qui roule par l'espace ou l'esprit, qu'en voyant l'œuvre, chacun toujours s'éprend de son auteur. Lève donc avec moi, lecteur, ta vue vers les célestes roues, droit vers ce lieu où le zodiaque et l'équateur se heurtent. Et là, commence à te complaire en l'art de ce maître qui l'aime en soi si fort que jamais son regard ne s'en éloigne.
Rends grâce au soleil des anges, grâce auquel tu viens jusqu'au soleil sensible.
Jamais un cœur mortel ne fut si prêt à la dévotion, ni si rapide à se donner de tout son gré à Dieu, que le mien ne devint à ses paroles. Tout mon amour se mit en lui si fort qu'il éclipsa dans l'oubli Béatrice. Loin d'en être fâchée, elle en sourit, et la splendeur de son regard riant divisa mon esprit joint à l'unique.
Circonstances dans lesquelles Dante écrit sont des circonstances historico-politiques extrêmement violentes. Vous savez qu'il est guelfe blanc, il y a les guelfes noirs et les gibelins, tout cela tourne autour, en effet, de la séparation des pouvoirs spirituels et temporels. Dante sera amené à prendre parti, mais il s'en est expliqué, d'ailleurs toute la Divine Comédie implique des références de cet ordre, pour une séparation des pouvoirs, bien sûr, ce qui n'est pas le cas à son époque. Et c'est je crois, un des aspects, mais le plus, qui a été très, très souligné au XIXe siècle, comme par hasard, parce que le XIXe siècle est très agité par toutes ces questions sociales, progressistes, révolutionnaires, surtout sociales. Est-ce que ça n'est pas en train de s'éloigner de nous? Si, je crois. Il faudrait aller donc à la signification profondément initiatique de l'œuvre de Dante. C'est-à-dire se préoccuper de ce qu'il dit en réalité sur l'expérience qu'il fait d'un certain nombre d'états intérieurs, et ça s'appelle l'enfer, le purgatoire ou le paradis. Ça n'implique pas qu'on efface la dimension historico-politique, mais elle a tellement changé qu'elle nous est en quelque sorte lointaine. En revanche, ce qui sort petit à petit au premier plan, c'est l'expérience propre de ce poète qui va se voir mis comme témoin avec un corps vivant parmi des morts, parmi des âmes mortes qui attendent la récupération éventuelle de leur corps afin que tout soit terminé, et qui va nous décrire ce que c'est que l'enfer sous Jérusalem, au centre de l'enfer, de la glaciation suprême, et qui ensuite, par un retournement, va nous décrire ce que c'est que la restauration de l'état hédénique et le cheminement dans les cieux.
C'est-à-dire la manière dont, je dirais, on se métamorphose à l'intérieur même de son âme. Évidemment, il y a deux choses là qui s'imposent. C'est d'une part, on voit très bien comment, à un certain moment, il faut que le relais de Virgile soit pris par Béatrice, comme si, en quelque sorte, les conducteurs ne pouvaient pas être les mêmes selon l'état dans lequel on se trouvait et l'avancement dans lequel on était. Et d'autre part, alors, dans la première étape, qui est une sorte de découverte des enfers intérieurs, d'une certaine façon, cette manière, oui, qui est quand même absolument étonnante, parce que l'enfer toujours, même si c'est notre enfer à nous, notre tourmente intérieure, on se le représente toujours finalement sous les figures de la flamme, du feu qui nous dévore, qui nous consume, etc. Or voilà que chez Dante, cela se résume dans une espèce, et vous le faites bien ressortir, de glaciation sans fin. Et d'une certaine façon, est-ce que ce n'est pas encore plus fort de nous montrer comment, au fond de nos propres tourments, il y a cette glace, il y a cette immobilité, il y a en quelque sorte cette mort à nous-mêmes, en fin de compte.
Pourquoi est-ce que Virgile est obligé de s'arrêter au paradis terrestre, au sommet du purgatoire? Eh bien, c'est qu'il n'est pas au courant de ce qui s'est passé après lui. Après lui, c'est le christianisme. Il y a eu quelque chose. Une autre perspective s'est ouverte. Et là, Dante, qui veut condenser les 13 siècles jusqu'à lui, introduit une figuration qui n'est pas trouvable avant lui dans l'histoire de la métaphysique, c'est-à-dire l'amour. L'amour pour se personnifier par Béatrice. L'intellect d'amour, c'est une formulation qu'on ne trouve pas, je crois, avant Dante. Et ses relations avec les fidèles d'amour, avec certaines sociétés secrètes de son temps, c'est-à-dire qui ont été liées à l'histoire du temple, etc., sont tout à fait intéressantes à suivre. Il y a cette introduction nouvelle. Virgile ne peut pas aller plus loin. Et là, qu'est-ce que c'est merveilleux de voir que Dante, qui se propose de fonder une autre vision du monde, en même temps se donne le droit de dépasser le poète qui était le plus important de son temps, c'est-à-dire non seulement en écrivant une langue nouvelle qui n'est pas le latin, mais en plus en prétendant savoir des choses que ne pouvait pas savoir Virgile, même si Virgile, dans une tradition sacrée, était censé avoir fait son voyage aux enfers. Il n'est pas le seul d'ailleurs, Homère l'a fait, etc., et d'autres témoignages. Mais c'est pour la première fois que tout est si minutieusement construit. C'est là où, depuis l'apparition du christianisme, quelque chose en quelque sorte a pris forme d'une certaine façon, avec des degrés aussi bien dans la perdition que des degrés vers le salut, ou plus exactement la connaissance. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un poème sacré. Poème, poésie. La poésie, c'est un rythme, c'est une prise en considération du langage dans son essence même. Donc, le parcours nous montre très bien que l'enfer, c'est une perte de langage. C'est une stéréotypie du langage. C'est une glaciation du langage. C'est peu à peu une aphasie ou alors un bredouillement, une perte de sens. C'est Babel, si vous voulez, mais enfoncé au centre de la Terre, où personne ne comprend plus vraiment personne, où Nemrod, par exemple, par une langue que personne ne comprend plus, où finalement on va vers une pétrification, une dévoration aphasique de soi. Bah, le Satan, avec ses trois têtes, dévore du corps dans la glace, et la bouche pleine. Donc, c'est la parole à son point de plus grande exténuation autodévorante. En revanche, une fois que vous avez contourné ce point de glaciation habité par Lucifer avec ses trois têtes. Ses trois têtes, c'est quoi? C'est la haine, l'ignorance et l'impuissance. Vous allez ensuite vers la Trinité, là-haut, après le purgatoire, qui sera le contraire, c'est-à-dire l'amour, hein, la connaissance et la puissance. La puissance n'est pas le pouvoir. C'est justement, c'est ça la polémique entre pouvoir temporel et pouvoir spirituel. Mais avec le purgatoire, comme par hasard, vous retrouvez non seulement la vision, parce qu'on n'en fait, on voyait rien, et vous retrouvez la couleur, la saveur, les chants, et le langage devient de plus en plus, en effet, libre, dans des corps qui subissent encore leur expiation, leur purgation.
Déjà, sur le visage de Madame se refixaient mes yeux, et à leur suite, mon cœur se détachait de tout le reste. Elle ne riait point.
Si je riais, tu deviendrais pareil à ses mêlées quand son corps se fit cendre. Car ma beauté, d'autant plus flamboyante, tu l'as bien vue, qu'on s'élève plus haut par les degrés du palais éternel, brille si fort qu'en l'affrontant sans voile, ta force humaine en subirait l'éclat, comme un rameau que fracasse la foudre. Nous voici élevés au septième astre, qui, sous l'ardent poitrail du lion, lance des rayons imprégnés de sa vertu. Que ton esprit s'attache à tes regards, qu'il te soit des miroirs pour la figure qui, dans ce miroir-ci, va t'apparaître.
Au paradis que personne ne veut lire, parce que c'est évident que le 19e siècle est constamment tourné vers l'enfer, et encore aujourd'hui, c'est le paradis qu'il faut lire. Encore une fois, il ne faut pas oublier que c'est un poème, c'est-à-dire que la façon dont le langage intervient, c'est pas seulement la transmission d'une doctrine métaphysique, initiatique, mais c'est aussi ce poème-là, à ce moment-là, et pas n'importe lequel. Donc au paradis, alors, tourbillon, danse, musique, chante, etc. Donc c'est une magnifique opération comme il n'y en a pas d'autres au monde, très calculée, qui vous dit, vous êtes, votre essence d'homme, de mortel, c'est le langage, voilà ce que vous en faites ou n'en faites pas, et ben voilà, ça vous allez donc d'après votre position par rapport au langage, aller en enfer, au purgatoire, si vous en avez eu quand même des lueurs, enfin, si vous êtes rendu compte que ça existait, la parole, le fait que vous habitiez la parole, hein, vous l'habitez, c'est en elle que vous êtes, vous pouvez la refuser, ça évidemment il faut prendre alors tout. Non seulement tout Saint-Jean, l'Apocalypse, etc., mais aussi, bien sûr, toute la grande poésie biblique dans Dante, et ça c'est trop peu souligné, et tout à fait familier, c'est-à-dire les psaumes et autre chose de ce genre.
Et tantôt, elle paraissait conduite par la blanche, tantôt par la rouge, et c'est sur le champ de celle-ci que les autres réglaient leur mouvement lent ou rapide. Du côté gauche, quatre autres dames dansaient, vêtues de pourpre,
lorsque vous parlez du poème sacré, Philippe Solers, de la poésie au sens le plus fort, est-ce que là, je dirais, il ne faudrait pas le ramener au sens grec du mot poésis, c'est-à-dire à la fois, c'est en même temps la fabrication, c'est-à-dire avec Dante, nous aurions, si j'ose ces mots, une sorte d'imagination créatrice de son propre monde, au fur et à mesure qu'elle parle, mais créatrice parce qu'en même temps, elle est réceptrice de la lumière divine, en quelque sorte, et où, à travers cette création, ce serait, en fin de compte, comme le reflet du logos, ce logos que Saint Jean place au début de son évangile.
Il y a tout de même fabrication au très haut sens du terme, puisque Dante vous dit, et le répète souvent et attire votre attention là-dessus, que ce qu'il vous dit a au moins quatre sens. Parce que quand il dit oh boy cavetelli telettisani mirate la dottrina che si sconde sotto il velame dei versi strani, c'est-à-dire vous qui avez les intellects saints, regardez la doctrine qui se cache sous le voile des vers étranges, ça ne veut pas dire que la poésie soit là comme un superflu qu'il faudrait dissiper. La poésie remplit ces quatre sens. Autrement dit, vous pouvez d'une même façon donner un sens tout à fait littéral, c'est pas l'actualité, déchiffrer l'histoire contemporaine, par exemple. C'est pour ça que Dante continue parmi nous. Vous pouvez voir se passer un certain nombre de choses, un certain nombre de dévastations, d'horreurs, de massacres. Bon, et puis vous allez monter au sens moral, puis un plus petit, et puis ensuite vous allez aller au sens analogique ou mystique entre guillemets, si vous voulez. Mais vous allez avoir une parole suffisamment forte pour qu'elle ait ses quatre sens à la fois constamment. Et lorsque vous perdez cette ouverture, cet éventail des quatre sens, alors vous avez tendance à être rabattu sur le sens littéral, ce que nous vivons, n'est-ce pas, tous les jours, dans la communication, son expansion extrêmement pauvre, misérable, c'est-à-dire une communication incessante et permanente qui oublie ces autres dimensions de la parole. Donc il y a une puissance là qui est toujours toujours presque perdu, la parole est perdue. Qu'est-ce que c'est qu'un humain qui perd de plus en plus le sens de la parole, le sens de sa puissance, de sa profondeur, de son efficacité, etc. Eh bien, ça a toute chance d'être quelqu'un qui va s'infernaliser.
Sans s'être encore fixé en aucun lieu, déjà ma vue avait saisi la forme de tout le paradis dans son ensemble. Quand, d'un désir enflammé, je me tourne pour questionner ma dame sur des points qui maintenaient mon esprit en suspens. J'attendais sa réponse, une autre vint. Je croyais voir Béatrice, et je vis un grand vieillard vêtu comme un élu. Ses yeux et son visage respiraient une liesse douce, et dans ses gestes paraissait la piété d'un tendre père. Où est-elle?
Pour achever tout ton désir, Béatrice m'a fait quitter ma place. Lève les yeux vers le troisième rang depuis le haut, et tu l'y reverras, sur le trône obtenu par ses mérites.
Moi, sans répondre, je levai les yeux et je la vis, reflétant les rayons éternels, s'en faisant une couronne. Ô dame en qui s'accroît mon espérance et qui souffrit pour gagner mon salut, de laisser en enfer tes pas marqués. Si j'ai pu voir tant d'immenses merveilles, j'en reconnais le mérite et la grâce à ta bonté, à ton aide puissante. Tu m'as hissé d'esclave en liberté, usant de tous les moyens et chemins en ton pouvoir afin d'accomplir l'œuvre. Conserve-moi cette munificence pour que mon âme que tu as guérie se dénoue de mon corps en te plaisant. Ainsi priai-je, et elle, si lointaine qu'elle apparut, me regarda, sourit, puis se tourna vers la source éternelle.
Alors, il y a Philippe Sellers, le personnage de Béatrice, qui prend le relais donc, de Virgile lorsqu'on arrive au paradis terrestre. Et est-ce que sur Béatrice, alors il ne faudrait pas s'interroger là aussi précisément sur le sens de son nom, puisque Béatrix, c'est pas simplement un prénom parmi les autres, c'est celle qui donne la béatitude, c'est celle qui crée la béatitude. Et on sait par la Vita Nova que c'était quand même un thème extrêmement fort, précisément chez Dante. Vous avez fait appel tout à l'heure au fidèle d'amour, mais on sait que le fidèle d'amour venait, enfin était en contact, en lointain contact, mais venait des fidèles d'amour qu'on trouve dans l'Iran ancien, Rose Béane, etc. C'est-à-dire finalement cette idée, en fin de compte, qu'il y a comme une sorte d'épiphanie divine dans la femme.
Oui, mais cela, en effet, était en train de mûrir depuis déjà fort longtemps à travers les troubadours, mais n'avait pas encore trouvé sa formule magistrale. C'est Dante qui, le premier, rassemble tout ce qui pouvait s'être élaboré comme poésie amoureuse, comprend que le christianisme, nommément le catholicisme, c'est-à-dire la Vierge Marie, exige des aménagements, et donc qu'il y a lieu d'aller droit, n'est-ce pas, à cette rose féminine, à cette substance qu'il n'a pas encore trouvée, vraiment, et qu'il n'a pas retrouvé depuis une splendeur égale. Il y a là un phénomène extrêmement mystérieux. Avant, c'est l'histoire de la poésie antique, de la métaphysique, et sur eux, mais il n'y a pas cette espèce de percée, si on peut dire, à travers la substance féminine, vers une jouissance que vous signaliez à l'instant dans le nom de Béatrice, la béatitude. Ça va beaucoup plus loin, puisque les mots les plus employés par Dante au paradis sont les mots rire, piacere, et puis plaisir et jouissance. Quel drôle de cheminement qui fait que vous seriez en état de monter de jouissance en jouissance. Mais cette jouissance n'est pas une jouissance en effet purement corporelle et physique, puisque c'est l'intellect d'amour. Ça veut dire que plus vous jouissez, plus vous comprenez. Et plus vous comprenez, plus vous jouissez. Et puis plus vous jouissez, plus vous comprenez encore. Et puis plus vous comprenez, plus vous jouissez. Et donc vous allez vers le sans fin, n'est-ce pas, de l'amour qui meut le soleil et les autres étoiles, comme dit la fin du poème, puisque vous êtes entré dans la Trinité elle-même, ce qui est tout à fait prodigieux. Donc, oui, là, on voit bien surgir à partir de Dante, mais déjà avant, mais alors à partir de lui, de façon absolument grandiose, tout ce qui va toucher un point très important, en tout cas très capital pour la culture occidentale, qui est la pénétration, n'est-ce pas, de la substance féminine comme ravissement. Quand Saint Bernard dit simplement Vergine Madre Filia et tuo figlio, bon, le Vierge Mère, là, bon, tout ça, tout le monde, on peut ricaner, Dieu sait qu'on s'en est pas privé, et à tort, dans la vie, parce que naître d'une autre façon que biologique devrait nous intéresser de plus en plus maintenant, que l'être humain sera fabriqué en laboratoire, de plus en plus. Donc, lorsqu'il dit « filial et vos filles », c'est-à-dire « fille de ton fils », alors là, il faut s'arrêter. C'est-à-dire, comment est-ce que une mère... supposée vierge, d'accord, c'est Dieu, tout ça. Mais enfin, comment ose-t-on dire qu'elle est devenue la fille de son fils? Autrement dit, son fils devient son père. Là, c'est une proposition extraordinaire, à mes yeux, enfin, qui prouve que quelque chose est complètement dénoué dans l'ordre de la filiation biologique et génétique. C'est autre chose. Et c'est tellement important que vous savez qu'en Baudelaire... au début des Fleurs du Mal, au milieu du 19e siècle, vous introduit ces Fleurs du Mal par des poèmes qui ne sont pas assez lus aux lecteurs et bénédictions. La sottise, l'erreur, le péché, la lésine occupent nos esprits et tourmentent nos corps. Bon, ça c'est aux lecteurs. Mais bénédiction. Lorsque par un décret des puissances suprêmes, nous sommes chez Dante, lorsque par un décret des puissances suprêmes, le poète apparaît dans ce monde ennuyé, sa mère épouvantée et pleine de blasphèmes, crispe ses poings vers Dieu qui la prend en pitié. Baudelaire vous prévient, au milieu du 19e siècle, que, ben, décidément, l'apparition du poète est quelque chose qui non seulement est déterminé par les puissances suprêmes, dit-il, les trônes, les dominations, nous sommes, c'est très sérieux, mais que l'engendrement de ce poète va déplaire beaucoup à sa mère biologique, je parle. Puisque tu vas choisir entre toutes les femmes pour être le dégoût de mon triste mari, Et alors c'est le contraire du je vous salue Marie, pleine de grâce, voilà, entre toutes les femmes. Donc là c'est très très important ce qui se passe, parce que vous voyez en effet comment nous sommes dans une époque sombre, où le poète, Baudelaire, n'a pas eu une vie facile, n'est-ce pas, vous parle de Dante, bien sûr qu'il y pense. Et vous montre à quel point l'époque est misérable et que quelque chose ne peut plus être atteint sauf par un décret des puissances suprêmes. Et la substance féminine est devenue, en quelque sorte, hostile.
Vous nous l'avez fait remarquer, effectivement, le troisième intercesseur, au moment où Dante arrive à l'empirer, en fin de compte, c'est-à-dire à la vision de la Trinité, c'est Saint-Bernard de Clairvaux. Alors Saint-Bernard de Clairvaux, c'est le temple qui a été effectivement le trait d'union entre l'islam mystique finalement et la chrétienté, et on pense que précisément les fidèles d'amour d'Iran sont venus en Occident à travers le temple. Enfin, vous l'avez signalé aussi, Bernard de Clairvaux, c'est celui qui a écrit ses six merveilleux sermons sur la Bienheureuse Vierge Marie, c'est celui aussi qui a écrit les sermons sur le Cantique de Cantiques, les commentaires sur le Cantique des Cantiques, vous savez, il a cette formule au début parlant de la Trinité précisément, le Saint-Esprit, le baiser qui échange le Père et le Fils. Donc, est-ce que, avec sa valeur de Clairvaux, je dirais d'une certaine manière, nous n'avons pas ce que nous avions déjà avec Béatrice, c'est-à-dire la puissance de l'amour, l'intellect d'amour, mais la poussée jusqu'à pratiquement la vision extatique, c'est-à-dire l'amour porté à son incandescence suprême.
Oui, et c'est la raison pour laquelle les interprétations d'un Dante qui aurait été hérétique, d'un Dante subversif, etc., sont légères. C'est-à-dire, elles émanent toutes du XIXe siècle dans des problèmes qui nous paraissent, à mon avis, aujourd'hui dépassés. Et qui montrent une chose très étrange, c'est que, comment voulez-vous lire ce poème sacré de Dante sans connaître la théologie? C'est pas possible. Sans connaître l'histoire du christianisme, l'histoire des papes et la théologie. Et pourquoi cette connaissance aurait-elle disparu? Par quel miracle négatif en serions-nous dessaisis? C'est très étrange. Est-ce que ça a été vraiment organisé, voulu? Pour quelles raisons? Pourquoi ferait-on toujours référence à d'autres expériences, à d'autres religions, à d'autres paysages que ce qui est là, sous nos yeux? Je ne sais pas, vous allez à Notre-Dame de Paris, vous allez à Saint-Pierre de Rome, vous allez où vous voulez, à Florence surtout. Vous entrez au baptistère Saint-Jean. Comment se fait-il, et là c'est une question très sérieuse, très intéressante, comment se fait-il que nous soyons coupés, puisque nous pensons tout le temps à autre chose, de ce qui est sous nos yeux, en quelque sorte. Et alors, je crois que là, la présence de Bernard est tout à fait importante. Bien sûr, elle a une explication, vous avez souligné, historique et secrète, entre guillemets, c'est-à-dire qu'en effet, la polémique de Dante porte sur la question de la destruction de l'ordre du temple en complicité la complicité étant entre Philippe le Bel et Clément V, qu'il met d'ailleurs en enfer, c'est-à-dire la rupture alors avec en effet des contacts qui pouvaient s'échanger avec l'Orient entre guillemets en général, l'islam ou l'Iran, peu importe. Mais cela ne doit pas nous empêcher de comprendre que son intention est d'une ferveur extrême, une connaissance aussi extrême par rapport au catholicisme. Enfin, c'est évident. C'est se priver de cette compréhension-là, c'est vraiment de ne pas lire le poème, notamment dans tout ce qui concerne la Trinité. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est? Pourquoi ce sont trois personnes distinctes qui n'en forment qu'une? Vous allez avoir cette vision, en effet, merveilleuse du dernier chant des trois cercles dont vous entrez par l'un où notre image est peinte. Il est là comme un géomètre qui essaie de résoudre un problème. Comment se fait-il que... Mais tout ça n'est compréhensible que par l'incarnation. Si vous avez l'incarnation, vous avez tout le reste, etc. etc. Et... en effet, l'amour, ben oui, la religion de l'amour à ce point-là, ben vous ne la trouvez pas en principe ailleurs élaborée à ce point. Ben, il faut en effet ce très curieux Dieu qui, etc. C'est là que l'ésotérisme de Dante, comme on dit, qui est un ésotérisme, en effet, où on peut trouver une vérité qui serait partout la même, etc., selon qu'on suivrait tel ou tel trajet exotérique, se trouve dans l'exotérisme catholique sa forme la plus splendide. Donc, il n'y a que ceux qui ne comprennent pas qu'exotérisme et ésotérisme n'ont rien à se reprocher, si vous voulez, ça n'est pas un problème, qui peuvent ignorer... il y aurait la vraie teneur du poème. Et ça m'a toujours surpris. Il n'y a pas de contradiction entre l'exotérisme, à proprement parler catholique, puisque nous sommes avec les papes, et Saint-Pierre parle, et se plaint que son trône soit usurpé, de son temps, au moment où il parle, là. Et puis vous avez, les saints parlent, ils vous parlent italien tout à coup, Dieu parle italien à travers eux, c'est assez curieux quand même. Et alors c'est les Français peut-être qui ont un problème avec ça. Le mal français, dit Dante, qui vient de loin, hein, c'est Hugues Capet qui dit vraiment, il y a quelque chose qui est... Et au fond, quand on est à Rome et qu'on assiste à n'importe quelle cérémonie, vous avez toutes les langues. Dieu est ressuscité le jour de Pâques, on vous annonce, le pape est censé faire ça, un travail épuisant. Il est censé vous annoncer ça dans 56, 57 langues, ça varie parfois un petit peu. Mais là, pour une seule homélie qui dure 5 minutes, n'est-ce pas, il va vous la dire en français, puis il va vous la dire en anglais, puis il va vous la dire en allemand, puis il va vous la dire en espagnol, puis il va vous la dire en italien, puis il va vous la dire en polonais, à ce moment-là, le polonais s'agit, etc. Je veux dire par là, j'ai remarqué souvent que ce sont les Français qui sont un peu gênés que ceci puisse avoir lieu comme ça, comme si tout devait avoir lieu en français, comme si ils étaient le centre du monde. Bien sûr qu'ils ont essayé de l'être à un moment donné, puis ils sont allés prendre un pape, Napoléon, etc. Le calendrier. Vous voyez, tout ça est très très compliqué. Donc c'est en français qu'il faut rattraper un certain retard par rapport à Dante, c'est pas si facile. Et c'est là l'intérêt, d'ailleurs. Parce que Saint Bernard est français.
Puisque nous en sommes à réfléchir comment comprendre, comment interpréter un grand texte, on peut s'attacher au petit ouvrage de Jacques Roubaud, Sous le soleil, aux éditions Bayard. En quoi consiste-t-il? C'est la reprise de la traduction que, en compagnie de deux savants biblistes, Jacques Roubaud avait produit dans ce qu'il est convenu d'appeler précisément aujourd'hui la Bible Bayard, du texte du Coëlette, celui que d'habitude nous connaissons sous le nom de l'Ecclésiaste et qui commence par ces fameux mots « vanité des vanités, vanitas vanitatum » qui reprend l'hébreu « evel havalim ». Et Jacques Roubaud, à travers l'explication qu'il a eue avec ce texte, essaie de comprendre quel est son sens réel, au-delà de toutes les couches d'interprétation que nous avons connues depuis des siècles, précisément dans le retour au noyau même, au noyau central de ce texte, qui est, d'une certaine façon, de nous introduire à l'idée que notre vie est d'une absurdité terrible, d'une certaine façon, et que c'est là où se fait le départ entre le croyant qui fait un saut au-delà de cette absurdité dans le témoignage d'une existence divine et l'agnostique qui en reste à cette constatation et qui, de ce point de vue-là, effectivement, suspend son jugement et est plongé dans un néant du monde, en quelque sorte, que personne de bonne foi ne peut révoquer. Une génération vient, une génération va, et la terre reste. Le soleil se lève, le soleil se couche, courant vers sa demeure, et se levant, lui, là, vers le sud, vers le nord. Le vent souffle, le vent tourne, et revient sur ses pas. On peut s'intéresser, il me semble aussi, aux réflexions de James Hillman, l'un des grands psychanalystes américains, intitulé « La trahison et autres essais » aux éditions Payot, dans la mesure où James Hillman, de la même manière que Jacques Roubaud essayait de s'expliquer avec un texte, James Hillman essaie de s'expliquer avec un certain nombre de traditions, de cérémonies, et particulièrement au culte qui n'était pas loin du culte dionysiaque, au culte des Kabyres, au culte des mystères de l'île de Samothrace, et où il essaie de voir ce qu'étaient les ressorts de l'initiation et, d'une certaine manière, comment un certain nombre de leçons devant la vie étaient données à l'homme, lui permettant de se transformer et de trouver un juste rapport avec son existence. L'initiation de Samothrace avait à voir avec la transformation de la conscience en lien avec notre individualité, l'esprit du daimon, ou l'ange individuel en nous, ainsi qu'avec notre destinée en fonction de cet esprit. Et enfin, je voudrais faire mention de l'édition des œuvres complètes auxquelles nous n'avions plus accès depuis très longtemps, des œuvres complètes de Bram Stoker, l'auteur de Dracula, que tout le monde connaît, mais aussi l'auteur de romans comme Le Joyau des Sept Étoiles, ou de nouvelles comme Au-delà du Crépuscule, où on retrouve toute la veine irlandaise de Bram Stoker, et au-delà de la mythologie facile qui s'est installée aujourd'hui de Dracula, comment il y a l'exploration précisément de toutes les facultés d'une imagination créatrice, et en même temps l'appui sur une tradition qui a été en partie la nôtre, la tradition celte, la tradition du tout le folklore irlandais et de toute la mythologie irlandaise sur laquelle Bram Stoker s'appuie et qu'il le fait entrer en communication avec ce que, dans cette ancienne mythologie, on appelait les habitants du Cid, c'est-à-dire les habitants de l'au-delà, ces dieux en quelque sorte exilés qui, tous les ans, revenaient nous voir et qui, d'une certaine manière, avaient commerce avec les humains comme si on ne pouvait dissocier la vie de la mort.
Les livres aujourd'hui, Sous le soleil de Jacques Roubaud aux éditions Bayard, La trahison et autres essais de James Hillman aux éditions Payot et l'édition des œuvres complètes de Bram Stoker aux éditions Omnibus. C'était Les vivants et les dieux, une émission proposée par Michel Cazenave, avec aujourd'hui la participation de Philippe.